Philosophie de l'art par le père Philippe à Saint-Joseph le 7 mars 85.
On peut se poser la question de l'origine de l'inspiration. Question toujours intéressante. D'où vient l'inspiration? Qu'est-ce qu'il faut faire pour en avoir, hein? C'est quand même intéressant, ça. Où est-ce qu'on va les puiser? Vente d'inspiration sur le marché commun. L'origine de l'inspiration artistique pose aux philosophes un problème particulièrement obscur. Rappelons ici diverses solutions extrêmes qui ont été proposées. Pour certains, l'inspiration est d'origine divine. Platon, dans le Phèdre, distingue 4 délires divins. Il ne faut pas se tromper, parce que alors, les psychanalystes sont là pour les discerner. 4 délires divins provenant de 4 inspirations qui elles-mêmes relèvent de 4 dieux. Il rapporte ainsi Apollon, l'inspiration divinatoire, à Dionysos, l'inspiration mystique, aux muses, l'inspiration poétique, et enfin la quatrième, à Aphrodite et à Eros, l'amour. Très intéressant, c'est un lieu très intéressant qu'il faut lire parce que c'est un lieu qui... Donc, c'est dans Phèdre. Et dans le livre de Vico, La science nouvelle, il y a aussi quelque chose de très intéressant sur ce que représente. Vico est un esthéticien italien très important et qui a des choses importantes et intéressantes. Alors, c'est sûr que, vous voyez, 4 sources divines. Transposition des 4 éléments. On voit bien cette espèce de transposition qu'il y a. Apollon, l'inspiration divinatoire. Delphes, Apollon. Il ne faut pas l'oublier. C'est les devins. On va à Delphes pour savoir sa vocation. Voilà Delphes. Alors on répond, connais-toi toi-même. Connais-toi-même, pour savoir d'où il faut aller, Apollon. Il y a Dionysos, l'inspiration mystique. C'est autre chose, c'est plus délirant. Aux muses, l'inspiration poétique. Et puis enfin, Aphrodite. Alors, encore une autre inspiration, l'inspiration des amants. Platon considère que l'inspiration du poète ou du musicien, autant que celle du philosophe, est un don des dieux. C'est pour ça que si vous ne l'avez pas, que voulez-vous? Vous êtes né sous une mauvaise étoile. Et vous chercherez, vous ne l'aurez jamais. Alors respectez qu'à côté de vous, il y a quelqu'un qui est né sur une meilleure étoile, sous le signe d'une meilleure étoile, et qui a des inspirations. C'est pas commode de vivre à côté de quelqu'un qui a tout le temps d'inspiration quand on n'en a pas. Parce que c'est vrai. Il y en a qui 10 fois par jour, hein, besoin de réaliser quelque chose, besoin de faire quelque chose. Puis d'autres, au contraire, ils n'ont besoin que de développer leur capital. Alors, pas besoin de nouvelles inspirations. Pour d'autres, au contraire, elle vient d'en bas, de certaines stimulations sensibles, pour d'autres encore, une résolution déterminée, l'intention volontaire et libre de créer. Vous pouvez très bien, ou le ciel, ou le point de vue, excitation sensible. On mettrait la drogue aujourd'hui, la drogue peut-être, toute espèce de choses. Je ne suis inspiré qu'après avoir pris une bonne tasse de café, J'ai pris une bonne tasse de café, c'est tout à fait différent. Alors évidemment, quand on entre dans un endroit où il n'y a pas de bon café, où le vin, on n'a plus d'aspiration. Plus que je suis entré au noviciat, plus rien du tout. Il n'y a plus de café. Parce que ça vient du café, c'est l'aspiration, ça vient du café, il faut des stimulants. La cigarette, quoi. S'il n'y a plus de cigarette, il n'y a plus d'inspiration, c'est fichu. On est complètement réduit à rien. Ça peut venir de là, de la drogue. Petite drogue. Ou au contraire, résolution déterminée, l'intention volontaire et libre de créer. Il y en a qui arrivent à se dominer de cette manière-là. Pour Hegel. On passe de Platon à Hegel. C'est vrai que ça n'a pas été traité énormément au niveau philosophique. Pour Hegel, l'inspiration ne provient ni totalement de l'extérieur. Le plus beau génie aura beau s'étendre matin et soir sur l'herbe verte pour jouir du souffle rafraîchissant de la brise. C'est Hegel qui dit ça, ça va tellement bien avec lui. On voit Hegel étendu sur l'herbe verte, attendant l'inspiration. Donc le plus beau génie, c'est nécessairement lui, aura beau s'étendre matin et soir sur l'herbe verte pour jouir du souffle rafraîchissant de la brise et regarder le ciel, ce n'est pas cela qui lui apportera la douce inspiration. Donc ça ne vient pas de l'extérieur, ni totalement de l'intérieur. C'est encore Hegel qui nous dit ceci. Celui qui cherche seulement à s'inspirer pour écrire une poésie, sans éprouver en soi la vivante stimulation d'un contenu, celui-là sera incapable, quel que soit son talent, de trouver une belle conception. Mais ça provient de l'un et de l'autre. La vraie inspiration est celle qui est provoquée par un contenu déterminé que la fantaisie appréhende pour en donner une expression artistique. Elle se confond avec ce travail actif de formation qui se détache d'une part, qui se rattache d'une part à l'intimité subjective et d'autre part à l'exécution objective. C'est assez difficile de voir exactement ce que c'est. C'est la véritable inspiration et celle qui est provoquée par un contenu déterminé. Vous voyez, alors, c'est très difficile, ça. Si le contenu est donné avant, alors l'inspiration n'est que l'expression. Et la véritable inspiration ne donne pas le contenu. Or, je crois que toute inspiration nous donne un contenu nouveau. Lui, on aura l'impression que pour Hegel, le contenu est a priori. Alors, on veut une inspiration pour lui donner un habit. C'est une prise d'habit. Et le contenu existe avant. Il faut uniquement exprimer. Dans une perspective psychanalytique et selon des modalités diverses, selon qu'il s'agit d'une psychanalyse freudienne ou non freudienne, l'inspiration s'explique par l'inconscient. C'est vrai que quand vous demandez à un freudien d'où vient l'inspiration, c'est l'inconscient. Jean-Paul Weber, reconnaissant les mérites de la réforme freudienne, tout en apportant des correctifs à ses interprétations d'ordre esthétique, propose une psychanalyse résolument non freudienne de l'inspiration et de la création esthétique. La création esthétique, écrit-il, est réaliste à l'enthousiasme surnaturel. Donc, la création esthétique qui résiste à l'enthousiasme surnaturel, à l'imagerie onirique, à la rêverie, non moins qu'à la lucidité totale de la réflexion et de la virtuosité technique, qui requiert un cheminement joignant au conscient pelliculaire, un inconscient épais, qui exige un inconscient infantile et un conscient fait de symboles sans symbolisme apparent et qui refuse enfin tout platonisme, donc toute idée a priori, injustifiée et injustifiable, tout projet gratuit, toute classification arbitraire, par ses refus et ses exigences mêmes, dessine de l'intérieur le lieu d'une interprétation possible. Au fond, vous n'expliquez rien. Expliquer l'inspiration par l'inconscient, c'est ne rien expliquer, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que l'inconscient. L'inconscient est une chose extrêmement difficile, puisque bon, c'est par définition un domaine qui nous échappe, qui transcende les classifications. Alors, je suis tout à fait d'accord que l'inconscient transcende toutes les classifications. Que je dis, l'inconscient transcende toutes les... et que l'inspiration aussi, c'est vrai. Enfin, pour présenter encore une position différente, il faudrait mentionner la manière dont Alain, dans la ligne de Kant d'ailleurs, conçoit l'inspiration au sein même du travail, lui refusant le statut de moment initial et privilégié de la création artistique, pour accorder à l'exécution et à la matière un primat absolu sur tout prétendu projet antérieur à l'œuvre. Ça, il a raison. Il n'y a pas de projet antérieur à l'œuvre par rapport à l'inspiration. L'inspiration est source. Elle est première. Là, je vous cite ce texte d'Alain, « Entretien sur le sculpteur et les arts et les dieux ». Ainsi, c'est toujours la matière qui parle. Et n'est-ce pas la formule au moins des arts plastiques, que c'est seulement la main par la matière qui parle à l'esprit. Bref, et quoique le projet semble précéder l'œuvre, ce rapport entre le projet et l'œuvre, que je nomme industriel, est tout à fait subordonné dans les beaux-arts à cet autre rapport très paradoxal, d'après lequel c'est seulement l'œuvre qui fait voir le projet, l'artiste étant le premier instruit et le premier surpris de ce qu'il dit par l'œuvre. Vous voyez le point de vue intéressant à voir ici. La matière. Il y a quelque chose de juste, c'est bien évident. La matière inspire. On a tous vu ça. Des sculpteurs devant des blocs de pierre extraordinaires, ça les inspire. La matière inspire. C'est un choc. Un choc extérieur devant quelque chose qui est brutal. Donc la matière inspire, ça, la matière apporte quelque chose, elle apporte une exigence soudaine, vous voyez, d'une détermination qui va heurter cette matière. C'est sûr, il y a là quelque chose de juste, et je crois que c'est plus juste, vous voyez, que de dire qu'il y a une espèce de contenu qui est donné avant et qu'on peut uniquement donner une expression. Si l'on interroge les artistes eux-mêmes, on constate qu'ils ignorent d'où leur vient l'inspiration. D'ailleurs, la question en elle-même ne les intéresse pas. Dire d'où les inspirations me viennent et comment elles arrivent, cela me paraît impossible. Celles qui me plaisent, je les retiens, déclarait Mozart. Sans saisir d'où viennent leurs inspirations, les artistes savent cependant qu'elles ne dépendent pas de leur volonté. Elles viennent quand il leur plaît, non quand il me plaît, affirmait Rousseau. Et Balzac avoue de son côté, les idées vous tombent au cœur ou à la tête sans vous consulter. Ne considère-t-il pas l'inspiration comme les chrétiens considèrent le souffle de l'esprit? C'est très analogue, ça c'est sûr. Le souffle de l'esprit, on ne sait pas d'où il vient, ni où il va. L'inspiration, c'est quelque chose qui m'est donné subitement. L'esprit souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne connais ni d'où il vient, ni où il va. Ils en ignorent la source, mais ne mettent pas en doute sa réalité. D'où vient l'inspiration? Très difficile. C'est pas le rôle de l'artiste. Hein. L'artiste, lui, il fait. Il est inspiré et il fait. C'est le rôle du philosophe d'essayer de comprendre d'où vient l'inspiration. Si les artistes reconnaissent que l'inspiration échappe à leur volonté, ce n'est pas une question de ténacité volontaire. Ils savent cependant qu'on peut y disposer. Il y a une espèce de disposition. Vous mettez plus ou moins proche d'une attitude d'accueil. Au contraire, une attitude de fermeté, de fermer toutes les considérations. C'est évident, quand vous êtes pris par un souci d'efficacité trop grand, vous ne pouvez plus être souple aux inspirations. C'est vrai dans l'ordre surnaturel, c'est vrai dans l'ordre artistique. C'est sûr. Un travail trop fort, trop dense, il faut du recul. Et c'est vrai, il faut du recul. Il faut passer quelques jours dans une maison monastique où on prend du recul. Alors à ce moment-là, l'inspiration revient. Et c'est vrai, les artistes aiment ça. Ils aiment des lieux de recueillement. Pas tout le temps, c'est bien évident. Mais ils aiment des lieux de recueillement. Parce que c'est dans le recueillement qu'on va pouvoir trouver. Rilke dit ça admirablement. Alors, nous allons nous poser la question, nous, en tant que philosophes. D'où vient l'inspiration ? Donc la question de l'origine de l'inspiration. D'où ça vient? Alors vous voyez qu'on peut tout de suite dire que le milieu extérieur le lieu d'expérience est sûrement très important, mais ce n'est pas cela qui est à l'origine propre de l'inspiration. La preuve, c'est que des personnes pourront être dans le même milieu extérieur, avoir les mêmes expériences au point de vue des réalités qui sont données et qui n'auront aucune inspiration. Et d'autres, au contraire. Donc, ce n'est pas le milieu extérieur, ça n'explique pas. C'est une condition qui peut être nécessaire. Il y a des milieux qui stérilisent. Et il y a des milieux qui fécondent. Alors ça, c'est tellement difficile d'expliquer. Et ça, c'est sûr. Il y a des milieux stérilisants. Ils sont terribles. Et les artistes ne peuvent pas rester. Et puis, il y a des milieux qui éveillent. Alors, d'où vient ? Ça ne peut venir que de l'immanence de l'artiste. L'inspiration vient de lui. Il a du reste conscience à ce moment-là, une conscience particulière des sources, que j'ai toujours dit, des sources. Mais l'inspiration, ce n'est pas le passage, pas du tout. L'inspiration est source de l'œuvre. C'est l'œuvre qui génère l'inspiration. Mais l'inspiration fait que l'artiste, d'une certaine manière, vous voyez, l'artiste, d'une certaine manière, par l'inspiration, il est source, il est ce au-delà de quoi il ne peut pas aller. Donc, l'origine même est en lui. C'est ça qui est très curieux. L'origine est en lui. Il y a une immanence dans l'ordre de l'inspiration qu'il porte en lui. Vous voyez, le vivant a son autonomie, l'artiste a son autonomie, en tant que grand vivant. Alors, d'où ça peut venir? Ça peut venir, je crois, en premier lieu, l'origine propre de l'inspiration semble bien être notre imagination. En tant qu'elle assume nos sensations, nos souvenirs, les reliant à une unité nouvelle. Faisons attention, ce n'est pas l'imagination, ne dites pas que l'imagination est la source. Nous avons tous une certaine imagination, tous. Nous ne sommes pas tous inspirés. Donc, c'est à l'intérieur de l'imagination qu'il faut découvrir cette source. Et l'imagination, c'est un labyrinthe. Il faut faire grande attention quand on s'y met dedans. Parce qu'on n'y revient pas. Si vous commencez à laisser votre imagination prendre de l'espace, ça ira de plus en plus. Il faut faire attention. L'imagination doit toujours être tenue, toujours doit être tenue par rapport à nous-mêmes. Autrement, nous divagons. Alors, c'est l'imagination qui revient à l'intelligence. Là, je crois que c'est ça qu'on doit essayer de comprendre. L'imagination qui présuppose le milieu clairement sensible du propre. L'imagination qui présuppose la réalité de l'individu. L'imagination qui va présupposer, si vous voulez, tout point de vue, que les sensibles propres sont présents dans l'imagination, mais sont transformés par l'imagination. Et l'imagination va être reliée à l'intelligence et au cœur, c'est-à-dire à la volonté. Et je crois qu'on peut dire que c'est ces trois reliés ensemble qui vont être source propre de l'imagination. L'intelligence, là aussi, un tout petit moment de critique, si vous voulez, pour bien comprendre ça, pour bien comprendre ce lien qui existe entre les trois. Et alors, vous pouvez mettre en plus le point de vue de la mémoire. La mémoire joue beaucoup, énormément, pour l'inspiration. Ça joue un très grand rôle. C'est l'humus dans lequel, de fait, ça pourra exister. S'il n'y avait pas de mémoire, je crois que l'inspiration serait très faible. Et c'est grâce à la mémoire qu'il y a une espèce que l'inspiration prend corps. Et la mémoire, c'est la culture, c'est le milieu dans lequel on est, c'est tout. C'est un patrimoine que nous portons en nous. C'est tout ça, la mémoire. Hein. C'est tout le fruit de nos expériences. Alors, ce n'est pas ça l'essentiel de l'inspiration. Il y a des gens qui sont de grandes mémoires, qui portent tout le passé avec eux et qui n'ont aucune inspiration, aucun renouveau. L'inspiration implique toujours un renouveau, tandis que pas la mémoire. La mémoire est conservatrice. Je ne dis pas que l'inspiration est révolutionnaire, ce ne serait pas juste de dire ça. Elle n'est ni révolutionnaire ni conservatrice, mais elle est ce qui nous porte vers quelque chose de nouveau. Tout le temps. Tandis qu'au contraire, la mémoire ne nous porte pas vers quelque chose de nouveau. La mémoire porte le passé. Passé lointain, passé proche, c'est le passé qu'on porte dans sa mémoire. Et alors, c'est le lien entre le passé, l'imagination liée par le point de vue de l'intelligence et une intelligence liée à la volonté, qui va être ce qu'on peut appeler, si vous voulez, l'intelligence de l'imagination, ou l'intelligence liée à l'imagination. Et l'inspiration provient de cela, provient de cette source. Il y a quelque chose de nouveau. La rencontre de ces trois, mémoire, imagination, intelligence, je crois que la rencontre de ces trois va être ce noyau, cette source de vie d'où va jaillir l'inspiration. Bon, comprenons. L'intelligence, je la découvre progressivement dans la mesure même où je pense, où je connais, dans la mesure même où je juge. Et je pose en moi cette intelligence dont je n'ai pas touché direct. Je ne sais qu'une seule chose, c'est que par certains moments, je pense. Et si j'essaie de saisir ça, je vois qu'il y a une origine de cette pensée. À certains moments, je cogite. Faites attention, vos cogitations ne sont pas toujours le produit de l'intelligence. Vos cogitations peuvent être très bien être uniquement au niveau imaginatif ou au niveau de mémoire. Les oignons d'Égypte. C'est la mémoire qui vous fait rappeler les oignons d'Égypte. la dernière cigarette que j'ai prise. Cette salle-là, présent dans la mémoire. Je me rappelle tout ça. La dernière personne que j'ai vue à mon entrée. Mémoire, je le garde. Ça empêche quelquefois l'imagination de pouvoir être plus libre. La mémoire ne me donne pas l'inspiration, elle me rappelle des faits. La mémoire unie à l'imagination permet à l'imagination de pouvoir s'étendre. L'imagination passe devant la mémoire. S'il y a un ordre entre l'imagination et la mémoire, c'est bien évident que l'imagination est, que la mémoire est pour l'imagination et non pas l'imagination pour la mémoire. Le jour où vous mettez votre imagination pour la mémoire, vous êtes un homme fixé au passé. Et quelquefois, ça arrive très vite. Vous êtes fixé au passé. Vous avez mis votre imagination au service de la mémoire. Normalement, la mémoire est au service de l'imagination. Normalement. J'ai un acquis. La mémoire, c'est l'acquis. J'ai un acquis et cet acquis est là pour constamment être renouvelé par l'imagination. Alors, comprenons que l'imagination, c'est la première faculté que je pose en moi pour expliquer la synthèse. L'imagination fait des synthèses extérieures qui me donnent des images, des représentations. Des images, des représentations que je porte en moi. Et ces images et ces représentations sont le fruit des sensibles propres et sont, comme on dit habituellement, les sensibles communs. Comprenons bien. C'est les sensibles communs auxquels sont liés les sensibles propres. Donc il y a une espèce d'inversion qui se fait dans l'imagination comparativement à la réalité. Dans la réalité, c'est les sensibles propres qui achètent les sensibles communs. Les sensibles communs sont du côté du conditionnement et les sensibles propres sont ce qui achève la réalité. Dans l'imagination, c'est juste inverse. Ça, c'est très curieux. Et ça, je crois que c'est vrai. Réfléchissez sur vos imaginations, vous verrez ça. Il y a une espèce d'inversion. C'est les sensibles communs qui passent avant les sensibles propres. Et dans la mesure où on est fatigué, les sensibles communs disparaissent et vous n'avez plus que des sensibles communs. Vous n'avez plus que des sensibles communs. Et je crois que le propre des cauchemars, c'est les sensibles communs. Alors c'est toutes les choses qu'on connaît bien, tu vois. On est figé dans l'impossibilité de bouger et le brillant arrive. Il parle de fixer, immobiliser, sensible commun. Vous êtes ligoté, sensible commun. Où vous êtes tout petit, réduit à rien du tout. Et il y a un ogre qui vient. Et ainsi de suite, vous voyez, le petit, le grand, l'immobile, le mobile, au contraire, vous descendez à toute vitesse. C'est après une journée d'automobile, on vient. Alors on continue la nuit. Mais alors c'est plus les sensibles communs la nuit. C'est les sensibles propres qui ont disparu. Et là, c'est ces choses-là. Et ainsi de suite. C'est les sensibles communs qui dominent les cauchemars. Les sensibles communs, vous les savez bien, je les répète pour ceux qui l'ont oublié, les cinq sensibles communs. Hein? La grandeur, le nombre, le mouvement, le repos, la figure. La figure. Les grimaces. C'est sensible comme ça. Le sourire commandé. Alors, c'est tout à fait ça. Ça, c'est les sensibles communs. Bien. C'est juste l'inverse des sensations où vous avez des sensibles propres qui sont donnés. Bien, quand vous n'êtes pas en bonne santé, le cauchemar est fait de sensibles communs et vous faites des synthèses des sensibles communs. On lit des sensibles communs, on ne sait pas trop comment. Et vous êtes capable de faire ça. C'est ça qui est très curieux. Vous êtes capable de faire des synthèses au niveau des sensibles communs. Vous reliez les sensibles communs à votre manière. Donc c'est la première synthèse. Hein. C'est ça que c'est intéressant toujours de se rappeler que la première synthèse est au niveau des sensibles communs. Il faut se demander si la dialectique hegelienne n'est pas au niveau des sensibles communs. Donc on est devant un cauchemar conscient. C'est les sensibles communs. Ça. Alors, les sensibles propres sont relatifs aux sensibles communs, dans la mesure où les sensibles propres apparaissent dans les rêves. Ils sont toujours relatifs aux sensibles communs. Donc c'est inversé par rapport à l'ordre de la réalité. Je crois à ça très important, cette espèce d'inversion que produit l'intentionnalité de la connaissance. Parce que je suis dans l'ordre de l'intentionnalité dans une image. C'est l'intentionnalité des sensibles communs dont je fais la synthèse. Et les sensibles propres sont relatifs à ça. L'intelligence est capable de juger les deux ordres, l'ordre réel et l'ordre imaginatif. Et c'est le propre de l'intelligence d'arriver à discerner les deux. Et quand une intelligence est falsifiée, elle ne fait plus la distinction entre les deux. Elle confond. Et nous tombons dans l'idéalisme. L'idéalisme, c'est une intelligence fatiguée, ça c'est sûr. L'intelligence faible. Alors, c'est la distinction entre l'ordre de la réalité et l'ordre de l'imaginaire qu'on ne fait plus. Vous ne savez plus. Quelquefois, c'est la maladie aussi. Hein. Parce que vous êtes justement dans un rêve éveillé. Est-ce que c'est réel ce que vous pensez? Oh, j'en sais rien. Et la frontière entre le réel et l'imaginatif, chez quelqu'un qui est faible et qui perd un peu la tête, devient impossible à faire. Quand vous êtes de bon sens, bien éveillé, pas trop fatigué, vous faites la distinction quand même entre un rêve, un cauchemar et la réalité. Peut-être qu'un tout petit moment, ce n'est pas très très bien, mais ça revient vite sur les deux pieds. On arrive quand même à se restabiliser assez vite. Donc, le bon sens, c'est ça le bon sens, je crois. C'est arriver à faire ce discernement. Tandis qu'au contraire, lorsque nous ne faisons plus ce discernement, nous entrons dans quelque chose de très très difficile à préciser. Où il n'y a plus de distinction entre l'ordre de la connaissance et l'ordre de la réalité. Vous identifiez les deux. L'intelligence, elle, est capable de discerner ces deux ordres. Tandis que mon imagination ne peut pas discerner les deux. L'imagination porte en elle ce monde nouveau qu'elle fait. Et ce monde nouveau qu'elle fait le porte en elle comme venant d'elle. Et parce que cet ordre vient d'elle, elle l'aime. On aime toujours ce qui vient de nous. Et ce qui explique comment on aime mieux quelquefois l'ordre imaginatif que l'ordre réel. C'est plus proche de nous. C'est plus selon notre conditionnement humain. Alors nous l'aimons. Tandis qu'au contraire, le réel, il s'impose à nous. Il nous fait mal. L'ordre imaginatif ne nous fait jamais mal. On ne s'est jamais passé la tête sur un rêve en soi. On n'a pas tombé. Ce qu'il veut, c'est que ce rêve est source pour nous d'un découragement ou des états de colère.
ça c'est possible, mais on ne se casse pas la tête sur, sur ce qu'on a imaginé, on dit que le réel, oui. C'est comme ça que vous vous réveillez, du reste.
C'est parce que vous vous cassez la tête sur, sur le meuble qui était à côté, vous aviez complètement oublié, qu'il était à côté. C'est vrai, c'est quand on voyage, c'est toujours ce qui arrive, ça on ne sait plus, on se demande, tiens, dans quel endroit je suis, avant de se mettre sur... Parce qu'on est dans, dans le point de vue de l'imagination, l'imagination c'est ça, on ne sait plus exactement où on en est. Alors, l'intelligence rétablit l'ordre réel, à la différence de l'imaginaire. Et l'intelligence juge des deux ordres. Et elle sait ce que représentent ces deux ordres. Et là, on est vraiment dans l'ordre de l'intelligence. Hein, parce que l'imagination ne peut pas faire la distinction. Vous voyez le jugement d'existence. Faire la distinction entre les deux ordres. Et c'est là, on voit très bien que le jugement d'existence apparaît immédiatement pour permettre à l'intelligence de se développer dans son propre terrain. L'intelligence, elle, peut se séparer du réel. Elle peut. Cette intelligence qui se sépare du réel, c'est une intelligence idéalisante. C'est une intelligence qui pense pour elle-même et non plus pour la recherche de la vérité. Elle pense pour elle-même, elle pense pour se développer, elle pense pour se nourrir, elle pense pour s'épanouir, elle pense, et ainsi de suite. L'intelligence peut se séparer du réel, l'intelligence peut revenir au réel, l'intelligence peut s'allier tout le domaine de l'affectivité et demeurer dans ses rêves affectifs, parce que ce sont des rêves éveillés, des rêves affectifs, dans ses rêves esthétiques. Elle peut faire ça et l'intelligence peut comprendre qu'elle se lie à l'imaginaire de diverses manières. L'intelligence peut se lier à l'imaginaire. Vous avez une intelligence romantique. Et ça peut être très beau, du reste. Elle est romantique. L'intelligence se lie à l'imaginaire pour être source de quelque chose de nouveau que l'intelligence humaine est capable de réaliser. Là, vous avez une intelligence inspirée. Et je crois que c'est ça qui va nous aider à comprendre comment l'inspiration provient donc de l'intelligence. Non pas spéculatif, le nous spéculatif est coupé du sensible, mais du nous lié au sensible. Intelligence liée au sensible et une intelligence qui va subitement une intelligence liée au sensible et liée à l'imaginaire qui va pouvoir en quelque sorte regarder le possible réalisable. Et c'est proprement cette intelligence liée à l'imaginaire, et par l'imaginaire, on demeure dans le domaine de l'intentionnalité, d'une intentionnalité possible, réalisable. Oui, l'intelligence liée à l'imaginaire pur, c'est l'intelligence romantique, il n'y a rien de réalisable. C'est le dilettantisme. Je rêve. À quoi ? À rien. Je rêve. Je rêve. Je suis dans un dilettantisme. C'est reposant. Et ce que j'appelle le vol du planeur. Hein. Ça va dans tous les sens. Le rêve du planeur est autre le lundi, parce que le lundi est le lendemain du dimanche.
le rêve du planeur est tôt le samedi parce que c'est la veille du dimanche. Et dès qu'il y a des vacances entre deux, c'est les vacances qui prennent le... Et ainsi de suite, vous voyez, c'est le planeur. Ça n'a rien du tout, ça n'a pas de structure. L'imagination peut donner à l'imagination... Bon, l'intelligence peut donner à l'imagination une structure. Alors là, c'est l'inspiration. L'inspiration est structurée. Tandis que le rêve, l'imagination pure n'est pas structurée. Ça, il est structuré. C'est l'intelligence qui va mobiliser dans l'imaginaire toute une série de possibles réalisables. Ce n'est pas l'intelligence qui les rend réalisables, c'est qu'ils sont en eux-mêmes réalisables. Ils sont en eux-mêmes réalisables parce que provenant de l'imagination liée à l'intelligence, les choses non réalisables tombent. C'est vraiment le point de vue du possible réalisable qui va être... Vous voyez, c'est curieux, ça, c'est extrêmement curieux, puisque c'est à l'intérieur de l'imagination. Alors, pour bien comprendre ça, notez tout de suite, hein, l'intelligence n'a pas de lieu. L'intelligence, elle est au bout de mon petit doigt. Quand vous pressez votre petit doigt, votre intelligence répond. Oui. Votre intelligence, elle est dans votre tête. C'est sûr. Votre intelligence, elle est dans votre cœur. Il n'y a pas de lieu, l'intelligence. Il n'y a pas d'organe physique pour l'intelligence. Ce n'est pas le cerveau. Non, non. Le cerveau est un moyen d'exercer mon intelligence. Mais pas plus. Mon intelligence comme telle, elle est au-delà de la matière. Elle est spirituelle. Et c'est pour ça qu'elle peut s'allier au domaine affectif, au domaine sensible, au domaine imaginatif, au domaine de la mémoire. Elle peut s'allier à tout, l'intelligence. Alors elle s'allie à tout avec plus ou moins de succès. Elle s'allie à tout. L'intelligence peut s'allier au sensible. Je peux être très très attentif à sentir. À ce moment-là, mon intelligence est tout imprégnée de sensations. Ou mon intelligence est à l'intérieur de mes sensations. Je rends mes sensations humaines. Parce que mon intelligence est liée. Et donc, mes sensations ne sont pas du tout comme celles de la vache qui regarde le train passer. Pas du tout. C'est très difficile d'avoir la sensation de la vache qui regarde le train passer. Je crois que c'est quasi impossible pour nous. Parce que dès qu'on fait attention, on rend notre imagination humaine. Et rendre notre imagination humaine, c'est de vivre de cette imagination. Alors, mon intelligence peut se lier à l'imagination, dans cette immanence de l'imagination, elle peut se lier à l'imagination et saisir parmi tous les possibles imaginaires, l'imaginaire réalisable. Alors, vous voyez comment, je dis comment, apparaît l'inspiration. Il faut deux grandes circonstances qui se rencontrent, deux grands aspects qui se rencontrent, deux grandes sources qui se rencontrent, l'intelligence et l'imagination. Et cette rencontre des deux va produire quelque chose de nouveau qui va se traduire par l'inspiration. Alors, ça n'exclut absolument pas le rôle des dieux, pour employer un langage mythologique. Ça ne rend absolument pas, ça n'exclut pas. Dieu peut se servir de mon imagination et de moi. De mon imagination pour faire cette rencontre. Et c'est peut-être Dieu qui télévise cette rencontre pour que, de fait, il y ait l'inspiration. Parce que qu'est-ce qui va expliquer que mon imagination va rencontrer telle intelligence, telle forme d'intelligence pour que l'inspiration apparaisse? Je ne peux pas le commander, ça. Mais quand vous dites « Ah, je veux être inspiré aujourd'hui hein, », vous verrez ça. Je Je veux être inspiré, vous me dire quelque chose d'intelligent. Et puis rien du tout. Et plus vous vous bloquez dessus, moins c'est source. Ça devient un puits profond dans lequel il y a des herbes. Il n'y a rien du tout. Hein. C'est très curieux l'inspiration. Et puis tout d'un coup, il ne faut pas se tendre. Surtout pas. Il faut essayer de se mettre dans une attitude qui soit une attitude de docilité par rapport, si on croit que Dieu dirige notre intelligence et notre imagination, on lui demande de faire cette rencontre féconde. Il y a une fécondité dans la rencontre des deux. Il y a une fécondité qui est ce nœud de l'inspiration où je saisis quelque chose de possible.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,